journal, Bruno Duvic.
Bonjour et merci d'être avec nous sur France Inter. Au sommaire aujourd'hui, la politique migratoire. Le sujet est en train de miner l'Amérique et l'Europe. En Amérique, les images d'enfants séparés de leurs parents à la frontière mexicaine provoquent un profond malaise. La politique Trump, dénoncée par les démocrates aux États-Unis, par une partie des républicains et par les ex-premières dames. En Europe, réunion exceptionnelle sur la politique migratoire dimanche. À Paris, placés ou pas des mineurs en centre de rétention, c'est en débat au Sénat. En Italie, rien ne se perd pour Benetton. Le vendeur de pulls s'offre une pub United Colors avec des photos de réfugiés. 80 km/h sur les routes départementales, c'est en place dans moins de 10 jours. Comment se prépare le changement? Le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, sera l'invité de notre journal. Le mondial de foot, Portugal-Maroc dans une heure. La Ronaldo-dépendance, faiblesse des champions d'Europe en titre. 17h, Uruguay-Arabie, dirigé par le seul arbitre français de l'épreuve, Clément Turpin. Portrait avec Jérôme Val. Dans ce journal encore, la vie après le cancer. Très vaste étude sur le sujet. 5 ans après, l'impact est encore important dans tous les domaines de la vie. La CGT peut-elle perturber le début de l'été dans les gares? Elle est pour l'instant la seule à vouloir poursuivre la grève après la fin juin. Et puis une bonne nouvelle, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
C'est l'été?
Oui, l'été c'est demain mais c'est aussi aujourd'hui bon. Puisque tout le monde va profiter d'un soleil radieux et de températures chaudes variant entre 25 et 34 degrés. Ambiance plus fraîche près des plages de la Manche avec en plus des plaques de grisaille qui risquent de persister par endroits. À noter aussi quelques averses et même quelques orages isolés sur les Alpes du Sud.
Merci Sébastien Léas, on vous retrouve à 13h30. 14h, la tête au carré vous intéressera Sébastien. Au sommaire de la tête au carré, à quoi pensent les bébés? Avant cela, la marche de l'histoire autour de la cour du droit d'asile. Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h. Tout est bon pour Benetton. Alors que les débats sur la politique migratoire à mener sont de plus en plus violents en Amérique et en Europe, la firme au pull de toutes les couleurs lance une nouvelle campagne de publicité. Des images des naufragés de l'Aquarius, ils n'ont pas de pull, non, ils ont des gilets de sauvetage, mais le slogan reste le même en bas de l'image. United Colors of Benetton. Bonjour Eric Van Mier.
Bonjour Bruno.
Fureur SOS Méditerranée qui affrète l'Aquarius.
Une opération de sauvetage de l'Aquarius, Zodiac, migrant en gilet orange, le slogan habituel United Colors au siège des SOS Méditerranée, c'est l'attitude de Kenny Karpoff, l'auteur de ces clichés, qui est fustigé. En aucun cas, un photographe qui accompagne une rotation en mer ne doit utiliser des prises de vue à des fins commerciales. C'est écrit dans la charte qu'il signe. L'ONG française découvre donc sidérée la campagne de Benetton et précise qu'elle n'a jamais été informée d'une telle utilisation. La dignité des survivants doit être respectée. La photo qui s'est affichée ce matin en pleine page dans les quotidiens La Repubblica et le Corriere della Sera a bien entendu provoqué la réaction du ministre de l'Intérieur, le légista Matteo Salvini. Une publicité minable, lâche-t-il sur Twitter, et Olivero Toscani, le concepteur de la pub, rétorque pas minable, dramatique. Et les deux hommes continuent d'échanger ce midi des amabilités sur les réseaux sociaux. Dans une interview à la Tribune de Trévise, l'homme de Benetton ajoute qu'il n'est ni un vendeur, ni un provocateur, mais un témoin de son temps. Et très loin de la polémique politicienne italienne, SOS Méditerranée rappelle aux futurs photographes à embarquer les devoirs auxquels ils s'engagent.
Et quoi qu'il en soit, l'objectif de la marque est en partie atteint, puisqu'on en parle de sa publicité en France et en Italie. L'Italie où des dizaines de naufragés continuent d'arriver. Plus de 500 personnes débarquées hier soir par les gardes-côtes italiens à Pozzallo, en Sicile. Derrière les chiffres, la question toute simple et vertigineuse est la suivante, accueillir ou pas, et comment ? Dans la lutte contre l'immigration clandestine, un cap a été franchi par l'administration Trump aux États-Unis, séparer les parents des enfants. Comment en est-on arrivé là ? Les adultes clandestins sont désormais poursuivis devant la justice pénale et non plus civile, ce qui implique de les incarcérer et donc de les séparer de leurs enfants. C'est ainsi que 2300 mineurs ont vu leurs parents s'éloigner depuis début mai. Cette politique tolérance zéro suscite un très gros malaise en Amérique. C'est inacceptable pour un ministre canadien, cruel et inhumain pour le chef de la diplomatie mexicaine. Aux États-Unis même, les démocrates sont vent debout, une partie des républicains mal à l'aise, les 4 anciennes premières dames et Madame Trump sont choquées. C'est immoral, dit Laura Bush. Écoutons Marie Cécile Nave et les chercheuses associées à l'IRIS, auteur de Géopolitique des États-Unis.
C'est un peu tôt pour parler de révolte, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a évidemment des contestations du côté des démocrates. Il y a eu une vive prise à partie de Donald Trump au Capitole, mais aussi du côté des républicains, plusieurs gouverneurs qui refusent de mobiliser la garde nationale à la frontière, et puis certains élus comme le sénateur John McCain qui s'insurge contre cette politique. Et ça touche la fibre chrétienne, en fait, du côté des républicains. Plusieurs leaders aussi d'églises protestantes et catholiques se sont insurgés contre cette politique qu'ils jugent inhumaine.
Est-ce que cette séquence peut être politiquement dangereuse pour Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat ?
Ça inquiète un certain nombre d'élus qui remettent leur siège en jeu du côté des sénateurs ou des membres de la Chambre des représentants du côté républicain. Lui va miser sur un peu le barreau d'honneur de l'Amérique blanche qui lui a permis d'être élu en 2016, c'est-à-dire cet électorat qui est très inquiet du multiculturalisme, qui adhère à l'idée d'un ami intérieur constitué par le migrant, et il y pense pour les élections présidentielles de 2020.
La chercheuse Marie-Cécile Nave avec Bertrand Galichet. Le sujet divise l'Amérique, il est en train de miner l'Union européenne, toujours plus clivée entre les durs et les autres. Une réunion exceptionnelle se tiendra dimanche à Bruxelles avec au moins l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne où les déchirures au sein du gouvernement sont de plus en plus apparentes, et la France. Parmi les pistes qui se dessinent, la création de centres de transit aux portes de l'Europe. Nous ne pouvons pas attendre que la catastrophe soit semblable à celle de 2015, dit le chancelier conservateur autrichien Sébastien Kurz. En France, cette prise de position du ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin, le principe de responsabilité, c'est de ne pas accueillir tout le monde. Le Sénat examine depuis hier le projet de loi Asile et Immigration, déjà adopté à l'Assemblée. La philosophie générale est plutôt au durcissement des règles, très traiter les demandes d'asile plus vite, renforcer la lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi sécuriser le droit au séjour de ceux qui ont obtenu des papiers. La droite, majoritaire au Sénat, veut encore durcir le texte, mais sur certains points, elle l'adoucit. Par exemple, le sort des mineurs, encore eux, en centre de rétention. La commission des lois du Sénat interdit le placement en centre de rétention des mineurs qui sont arrivés sans parents, et elle encadre le placement de ceux qui sont avec leur famille. Les mineurs en centre de rétention, il y en a de plus en plus, Delphine Evenoux.
Plus de 300 enfants sont passés par un centre de rétention administrative l'année dernière, contre une quarantaine en 2013, selon les chiffres de la CIMAD. Quelques heures, le plus souvent, qui peuvent marquer durablement un mineur, selon la psychologue Servane Legrand.
Ça va des troubles du sommeil, de la sidération psychique, des troubles de la pensée, du comportement. Même chez un enfant où on peut se dire il comprend pas ce qui se passe, ça a un impact très fort. Il prend cet impact dans son corps. Quand ce n'est pas parlé, ça peut ressurgir bien des années plus tard, même dans la vie adulte.
La semaine dernière, c'est une mère ivoirienne et son nourrisson de 8 mois qui ont dormi au CRA du Ménil-Amelot, en région parisienne. L'un des centres qui reçoit le plus d'enfants, avec Metz, Rennes ou encore Toulouse. Et ce n'est pas un hasard, explique David Rohi, responsable des actions de la CIMAD en rétention.
Cet enfermement, la plupart des fois, il est simplement prévu pour faciliter l'organisation logistique des expulsions, l'organisation des escortes de police, du domicile jusqu'aux avions. L'administration pourrait tout à fait procéder autrement et éviter d'enfermer uniquement pour des raisons de confort logistique.
Le ministère de l'Intérieur assure vouloir éviter de réveiller les familles en pleine nuit pour un long trajet vers l'aéroport, met en avant 1,5 million d'euros de budget pour adoucir le séjour des enfants en CRA. La France a déjà été condamnée plusieurs fois par la justice européenne pour violation de la Convention des droits de l'enfant.
Pour alimenter ce débat, il y a encore ce constat fait aujourd'hui même par l'OCDE. Pour la première fois depuis 7 ans, les déplacements de migrants vers les pays de l'OCDE, en gros les pays riches occidentaux, ces déplacements de migrants sont en baisse. L'Allemagne a enregistré une chute de 73% des demandes d'asile par rapport au record de 2016. C'est vrai que c'était très fort en 2016. Et ce sont les États-Unis qui sont devenus l'an dernier le premier pays de demande d'asile dans l'OCDE. Écoutons Stefano Scarpetta, le directeur des affaires sociales de l'OCDE.
C'était l'Allemagne en 2015 et 2016. Aujourd'hui, c'est plutôt les États-Unis. Évidemment, ce sont des pays comme El Salvador, Guatemala, Venezuela. Ce sont des pays dans lesquels il y a très forte tension. Et donc, il y a beaucoup de gens qui essayent la chance aux États-Unis. La France est derrière. Évidemment, c'était l'Italie aussi qui a un certain nombre de demandeurs d'asile. 125 000, je crois, en 2017. Il faut savoir que jusqu'à 2015, la moyenne, c'était plutôt 50 000. Donc, c'est plus que le double. Mais quand même, ce sont des chiffres qui ont baissé un peu par rapport à celles de l'année d'avant. Donc, en termes de la situation, très forte tension humanitaire qu'on a eue en Syrie, en Irak, ça a baissé par rapport à la situation 2015-2016. Mais la question dans beaucoup de pays européens aujourd'hui, c'est qu'il y a des flux quand même, d'origine différente. C'est plus les Syriens, c'est pas les Irakiens, mais c'est plutôt les pays qui viennent du nord de l'Afrique. Et évidemment, sont concentrés dans certains pays, comme l'Italie, qui est quand même le point de destination principal. Et donc, certains des épisodes qu'on a vus récemment, c'est un peu un cri une situation qui est tendue et sur laquelle il faut donner une réponse qui ne soit pas seulement une réponse de l'Italie tout seul, mais une réponse plutôt coordonnée à niveau européen.
Un propos recueilli par Mathilde Dehimi. Pour clore ce dossier, on ajoutera les propos du pape François ce matin. Le populisme et les psychoses ne sont pas des réponses aux problèmes mondiaux de l'immigration. La solution, c'est le consentement, l'étude et la prudence. Interview du pape à l'agence Reuters, dans laquelle, par ailleurs, il affirme que des femmes ordonnées prêtres, eh bien, ce n'est pas pour demain. La porte est fermée, dit François. Le souverain pontife se dit encore en bonne santé. Il n'envisage pas de partir à la retraite. En bref, la lutte contre les avantages fiscaux illégaux progresse en Europe. Après l'Irlande qui favorisait Apple, la commission de Bruxelles demande au Luxembourg de récupérer 120 millions d'euros d'avantages fiscaux illégaux accordés à Engie, le groupe énergétique dont l'État français est l'actionnaire principal.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
À 13h11, l'invité de ce journal est le délégué interministériel à la sécurité routière. Bonjour Emmanuel Barbe.
Bonjour.
En duplex de vos locaux du 20e arrondissement de Paris, puisque vous vous apprêtez à tenir une conférence de presse pour détailler ce qui sera le grand changement de l'été sur les routes, le 80 km/h. Tiens, il n'est peut-être pas inutile de rappeler précisément les nouvelles règles. 80 km/h uniquement sur les routes bidirectionnelles à 200 sans séparation, c'est bien ça. Ailleurs, ça ne change pas.
Alors, exactement, ça ne change pas. Il y a deux petits bémols ou exceptions. S'il y a quatre voies sur une de ces routes, on reste à 90, puisqu'on peut doubler sans danger. Et s'il y a trois voies, ce qu'on appelle des zones de dépassement, c'est la même chose. Mais il y aura des panneaux pour l'indiquer. Et en revanche, tout le monde est à 80, hein. C'est une simplification. Donc, les camions, les conducteurs novices, en cas de pluie, maintenant c'est 80 partout. La règle est unifiée.
Alors, sauver des vies, éviter des blessures, c'est l'argument avancé pour justifier ce passage de 90 à 80. Quelles études, quels chiffres, Emmanuel Barbe, et vous savez que le sujet a été controversé toutes ces dernières semaines et ces derniers mois, quelles études, quels chiffres justifient le passage à 80?
Alors c'est très difficile de comprendre pourquoi on conteste ces chiffres, parce qu'ils sont reconnus au niveau international, ils font partie d'une sorte d'acquis scientifique de la science de l'accidentalité, que l'accidentologie. Ces chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? On a eu des abaissements de vitesse dans plus de 500 cas dans le monde occidental, et à chaque fois ce qu'on observe, c'est pratiquement un lien mécanique, numérique, entre la baisse de la vitesse moyenne qui est pratiquée, la baisse de la vitesse autorisée va permettre à une baisse de la vitesse moyenne, et donc ça, pour 1% de baisse enregistrée, eh bien on a 4% de baisse de la mortalité. En France par exemple, en 2002, eh bien c'est ce qui s'est produit grâce au radar de Jacques Chirac. Eh bien la vitesse sur les routes qui vont passer à 80 a baissé de 7 km/h et la mortalité de 37%.
Donc c'est la loi des grands nombres en quelque sorte.
C'est exactement ça. Vous savez qu'on roule en France 500 milliards de kilomètres tous les ans. Il y a environ 70 000 accidents. Et en fait, on va faire baisser le nombre des accidents. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est très important de comprendre, c'est que ce n'est pas une mesure contre la vitesse excessive.
Oui.
C'est une mesure contre les accidents. De sorte qu'au final, on retrouvera la même proportion dans les causes des accidents, mais avec moins d'accidents.
Et puisqu'on parle circulation, on entend que nous sommes installés dans la rue devant vos locaux. Et donc, ça circule pas mal. Mais vous inquiétez pas, on vous entend tout de même très bien, Emmanuel Barbe. Un chiffre que vous allez mettre en avant dans les heures à venir, en passant de 90 à 80, c'est 13 mètres de freinage en moins, c'est ça, de distance?
C'est exactement ça, c'est ça qui fait l'effet de masse. Donc 13 mètres, c'est la différence qu'il faut pour s'arrêter entre 90 et 80. Et si vous n'avez pas disposé de ces 13 mètres à 90, le choc intervient à 48 km/h, ce qui est, avec un véhicule d'une tonne 5, une masse cinétique considérable et qui fait beaucoup de dégâts. Donc on va écrire en fait la chronique des accidents qui n'arrivent plus ou des accidents qui sont moins graves. Et ça s'est vérifié partout, ça fait pas l'ombre d'un doute. Et ce qui est important surtout, c'est que par ailleurs, tout montre qu'on perd peu de temps, parce que c'est ça qu'on doit rechercher. Est-ce que c'est une mesure qu'on peut imposer aux Français si on leur fait perdre trop de temps? Et en réalité, toute la presse quotidienne régionale, tous les journalistes ont essayé et ont constaté qu'on perdait de quelques poignées de secondes à quelques petites minutes. Et très franchement, pour contribuer à la sécurité collective, je pense que c'est un tout petit sacrifice.
Alors, la mesure est en test pour 2 ans. Un test est pertinent et intéressant si on se laisse la possibilité de retirer la mesure si elle ne fonctionne pas. Quels sont les objectifs et est-ce que s'ils ne sont pas atteints, eh bien, on restera finalement à 90 sur les routes départementales partout?
Alors, c'est le président de la République qui a explicité ça, hein, dans l'ordre, il n'y a pas très longtemps. Soit il n'y a aucun résultat et on revient en arrière, soit les résultats sont dans l'objectif. On est entre 300 et 400 morts en moins par an en année pleine, donc. Et puis, soit les résultats sont au milieu, ce que je n'espère pas, mais je pense que de toute façon, les résultats sont très bons. Et dans ce cas-là, on regarde ce qu'on fait. Mais c'est un engagement du président de la République. Et donc, je pense qu'il n'y a aucun doute à avoir là-dessus.
Emmanuel Barbe, il y aura plus de contrôle, plus de radars dès le 1er juillet sur les routes ?
Non. Les radars seront réglés le 1er juillet, bien évidemment, mais il n'y aura pas plus de radars. Les contrôles seront les mêmes. Donc, il n'y a pas de souci à avoir de ce point de vue-là. En revanche, comme nous pensons que cette mesure va sauver des vies, évidemment, il n'y avait aucune raison d'appliquer une période où il ne se passerait rien. Donc, dès le 1er juillet, il faudra rouler à 80.
Il n'y aura, pas de période de tolérance.
Aucune période de tolérance, à part les marges techniques sur les radars. Oui. Mais à propos de 80, je rappelle quand même que 80% des permis de conduire français ont 12 points. Donc, ne pas se faire flasher, ça reste un objectif qui est à la portée de tous. C'est pas une mission impossible. Quand j'entends on va mécaniquement se faire flasher beaucoup plus, je pense qu'on s'y habitue très très vite. Il faut écouter son régime moteur et on verra qu'à ces vitesses-là, on roule aussi avec beaucoup plus de sérénité. D'ailleurs, moi, je pense que beaucoup de Français, puisqu'il y a 68% des Français qui disent qu'ils ont peur sur ces routes, vont enfin pouvoir exercer leur droit à rouler moins vite. Et donc, je ne suis pas inquiet sur ce qui va se passer dans un an et que la mesure sera bien entrée dans les mœurs sans difficulté particulière.
Combien d'argent va rapporter le passage à 80 ?
C'est totalement impossible de vous le dire.
Il y a le chiffre de 350 millions qui circule.
J'espère zéro. Le chiffre de 350 millions est fantaisiste, est un chiffre qui est fait au coin d'une table pour faire de la polémique. J'en ai pas la moindre idée. Depuis 6 mois, on ne parle que du 80, donc je pense que personne peut ignorer que le 1er juillet, ça change. Je pense que les Français savent qu'il y a des radars, et donc je pense que ça n'augmentera pas considérablement. Mais le point qu'il faut ajouter, c'est que, d'abord, ces augmentations, quand on les observe, sont toujours provisoires, et puis ensuite, on revient à l'étiage normal. Et deuxièmement, toute augmentation qui résulterait du passage à 80 sera affectée à un fonds qui permettra que les hôpitaux qui réparent les survivants de la route, hein, je vous rappelle quand même qu'il y a 24 000 blessés graves par an, c'est des gens qui sont vraiment laissés sur le carreau et leur famille avec, eh bien ça bénéficiera aux soins, un meilleur équipement, un meilleur investissement pour les soigner mieux. Et quand on parle de temps perdu, il faut aller dans ces hôpitaux pour comprendre la lenteur du temps qui s'y écoule, ne fût-ce que pour récupérer parfois l'usage d'un membre ou d'une faculté intellectuelle. Donc c'est ça qui est l'enjeu, mais cet argent n'ira pas à rembourser les dettes, comme on dit, il est déjà affecté.
Il sera fléché vers les hôpitaux.
Et ce sera transparent. Vous aurez des chiffres comptables qui indiqueront au centime près comment cet argent, le surplus, et comment il a été affecté.
Merci Emmanuel Barbe d'avoir répondu à nos questions. Le passage à 80 km/h, c'est donc dans une dizaine de jours, le 1er juillet. 80 km/h sur les routes et dans les gares. Comment s'annonce le début d'été ? Grève jusqu'au 28 juin et ensuite, fini. C'est la position de l'UNSA et probablement de la CFDT. Je souhaite qu'après le 28 juin, ce soit terminé, dit son leader de la CFDT, Laurent Berger. Ça, c'est pour les deux syndicats présentés comme modérés depuis le début du mouvement. Pour les deux autres, Sudrail n'a pas encore tranché. La CGT veut continuer, CGT Cheminot veut continuer la bataille après le 28 juin. Nous sommes prêts à y aller seuls, dit-on à la CGT Cheminot. Maxime Debs, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'à elle seule, la CGT Cheminot peut perturber le début de l'été, Maxime ?
Eh bien déjà, si la CGT voulait tout bloquer, Bruno, elle aurait bien du mal, comme le dit la CFDT majoritaire chez les conducteurs. Sans nous, l'impact sera forcément moins important. Ensuite, question, la CGT a-t-elle vraiment cette intention de tout bloquer cet été ? De l'avis de plusieurs voix syndicales présentes hier à la Réunion, le discours ferme affiché par la CGT il y a encore quelques jours a changé. Et comme le dit Laurent Brun, son secrétaire général ce matin, les jours de grève décidés pourraient ne plus tomber forcément sur les jours de grand départ. La CGT est justement réunie aujourd'hui en commission pour en discuter. Mais plutôt que les dates du vendredi 6 et samedi 7 juillet qui impacteraient fortement les vacanciers mais ne convainc pas Sudrail, on entend désormais parler du 11. Le 11 où les syndicats attendent des annonces sur l'avenir du fret. C'est un mercredi, cette date-là moins contraignante pour les voyageurs, mais plus stratégique pour Sud, semble faire davantage l'unanimité. De toute façon, dit un leader syndical, il faudra faire des choix et proposer un calendrier allégé. Après ces 3 mois inédits de lutte, ces 3 mois historiques, nombre de cheminots sont aujourd'hui sur les genoux après avoir dû s'asseoir sur des centaines et des centaines d'euros de salaire.
La SNCF, une des réformes menées par le gouvernement ces dernières semaines, il y en a eu beaucoup d'autres, notamment dans le domaine du travail. Vous avez des questions à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Eh bien, c'est le moment ou jamais. Elle est l'invitée du Téléphone Sonne ce soir à 19h20 sur France Inter. On soigne de mieux en mieux le cancer au fil des années et des décennies, mais comment vit-on après la maladie? L'Institut National du Cancer et l'INSERM ont mené une vaste étude sur le sujet, plus de 4000 personnes interrogées, 5 ans après le premier diagnostic. Et les résultats, Véronique Julia, eh bien les résultats ne sont pas très réjouissants.
À l'annonce du cancer, déjà, tous n'avaient pas le même pronostic. 5 ans plus tard, il y a eu des décès, des récidives aussi, sans surprise, plus fréquents dans les cancers du poumon que dans ceux de la thyroïde, réputés moins redoutables. Globalement, les 2/3 des patients se plaignent encore 5 ans après de douleurs, de fatigue, de troubles de la vision, de difficultés sexuelles consécutives à la maladie ou à ses traitements. Un patient sur 2 se dit très fatigué. Économiquement, la situation n'est pas toujours rose non plus. 5 ans après le diagnostic, 1/4 des patients a vu ses revenus baisser parce qu'il a dû réduire son activité ou parce qu'il est au chômage, 20% de ceux qui avaient un emploi ne travaillent plus. Guérir du cancer, mais mourir parfois professionnellement, un grand classique, rappelle Anne-Sophie Tusinski, fondatrice de l'association Cancer at Work.
Les publics qui sont les plus fragilisés sont d'une part les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées, et puis il y a aussi les indépendants, toutes ces personnes qui travaillent finalement seules et pour qui la maladie peut être synonyme d'arrêt complet de revenus. Ça m'inquiète particulièrement dans la mesure où nos formes de travail tendent vers davantage d'indépendance. Ça veut dire qu'on va être de plus en plus nombreux à être fragiles face à la maladie.
En France, sur 1000 personnes qui apprennent chaque jour qu'elles ont un cancer, 400 travaillent. L'étude montre aussi l'impact négatif sur l'image de soi. 29% des patients se disent 5 ans après gênés par leur apparence. 35% se sentent moins attirants.
On a peut-être été un peu trop zélés. Confidence du plus proche conseiller de Laurent Wauquiez après l'éviction de Virginie Calmels et les conditions dans lesquelles elle est virée. Elle a trouvé son bureau fermé dès aujourd'hui, ses effets personnels entassés dans un carton dans l'entrée du bâtiment du siège des Républicains, y compris des dessins d'enfants. Un monde avec tout plein d'activités sportives et culturelles dans les écoles. Voilà comment le précédent gouvernement avait défendu le passage à 4 jours et demi de classe, plus de temps l'après-midi pour sortir des strictes disciplines scolaires. Et bien 4 ans plus tard, 70% des communes vont repasser à 4 jours la rentrée prochaine, puisque le gouvernement leur en laisse la liberté. Et la question maintenant, c'est comment organiser les mercredis qui vont être intégralement sans école dans ces communes. Il est grand temps. Le gouvernement a donné quelques petits éléments de réponse ce matin, Solène Lehen.
Qu'ils aient école le matin ou pas, aujourd'hui 800 000 enfants bénéficient le mercredi d'activités proposées par les centres de loisirs. C'est moins d'un sur 10, regrette Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation.
Trop souvent, les enfants sont soit chez eux avec des jeux électroniques ou très confinés. Nous avons envie de leur ouvrir les possibilités, aussi bien sur le plan des lieux où ils vont que sur le plan des activités qu'ils font. Et cette dimension d'ouverture est au cœur du plan mercredi.
Le plan mercredi, c'est en fait plus d'argent, de subventions pour inciter les communes et les centres de loisirs associatifs à proposer davantage d'activités de qualité, culturelles, sportives ou liées à la nature.
Nous allons doubler la participation de l'État. Aujourd'hui, les communes sont financées par les CAF à hauteur de 55 centimes de l'heure par enfant dans des activités périscolaires. Demain, nous montons à 1 euro et les communes donc, qui élaborent un plan mercredi pour ainsi être aidés deux fois plus.
Toutes les communes seront éligibles aux subventions de ce plan, qu'elles soient repassées ou non à la semaine de 4 jours d'école. Celles qui proposent déjà des activités sportives ou culturelles pourront évidemment, elles aussi, bénéficier de ces subventions supplémentaires.
Dans le domaine de l'éducation, les épreuves du bac aujourd'hui pour les filières générales et technologiques, la langue vivante pour les filières professionnelles, les épreuves d'art appliqué et culture artistique. Et nous ouvrons la page Coupe du Monde de football de ce journal. Bonjour Bertrand Quenot.
Bonjour Bruno.
Oh là là, il y a de l'ambiance derrière Bertrand, un des nombreux envoyés spéciaux de Radio France. Premier match au programme aujourd'hui dans un peu plus d'une demi-heure, Portugal-Maroc. Et zoom avec vous Bertrand sur le Portugal. Au premier match la semaine dernière, les Portugais ont fait 3-3 face à l'Espagne. Match somptueux. Mais pour dire les choses, c'est Ronaldo qui a quasiment fait tout le travail. Et ce qui est posé, c'est la question de la Ronaldo-dépendance des Portugais.
Eh oui Bruno, en effet, parce que Cristiano Ronaldo est décidément un joueur à part. Au Real de Madrid, déjà Zinedine Zidane lui-même reconnaissait une certaine dépendance de son équipe vis-à-vis du phénomène. Et ce qui est vrai chez les Merengues, il est aussi, sinon plus, en sélection. Preuve encore face à l'Espagne donc, où le deuxième joueur le plus capé du mondial a inscrit un triplé et permis à son équipe d'éviter la défaite, alors même qu'elle avait craqué par 3 fois défensivement. Un héros qui rend meilleur ceux qui l'entourent et qui rassure. Et même si les Lusitaniens ont remporté la finale du dernier Euro sans lui, eh bien force est de constater qu'ils l'ont fait sans se créer la moindre moindre occasion et en bénéficiant d'une bonne étoile face à une équipe de France qui était clairement en manque de réussite. Il faut aussi se rappeler sur cet Euro que c'est lui, CR7, Bruno, qui a permis d'éviter le naufrage en phase de poule avec un doublé et une passe décisive. Ronaldo est un leader doté d'une palette complète, capable de tout faire. Celui que ses partenaires cherchent sans cesse, toujours au bon endroit. Et face à l'Aurora, il est aussi devenu le joueur le plus rapide du monde, flashé sur une remontée du terrain à 38,9 km.
Ça va, ça passe même pour Emmanuel Barbe, qui était notre invité tout à l'heure. Merci Bertrand Queneut. Dans ce groupe B, l'autre match du jour, ce sera Iran-Espagne. À l'affiche encore aujourd'hui, Uruguay-Arabie Saoudite, avec un Français, Jérôme Val, l'arbitre. Turpin.
Ses premiers souvenirs de Coupe du Monde remontent à 1990. À l'époque, Clément Turpin était âgé de 8 ans.
Je savais même pas ce que c'était que l'arbitrage. Je regardais, comme des millions de Français, les matchs à la télé, avec le suspense qu'il pouvait y avoir sur les matchs. La découverte de l'arbitrage est venue plus tard.
Vers 15-16 ans précisément, quand le Bourguignon enchaîne les matchs sur le terrain et au sifflet.
J'allais arbitrer le samedi après-midi et jouer le dimanche. Parce que j'estime qu'à 15-16 ans, on a encore envie de jouer avec ses copains.
Depuis, tout s'est accéléré. Devenu le plus jeune arbitre de Ligue 1 il y a 10 ans, il s'est très vite imposé au niveau international. Championnat d'Europe en France et Jeux Olympiques au Brésil en 2016, jusqu'à cette Coupe du Monde, un Graal pour ce fondu de sport.
Demandez aujourd'hui à un joueur, est-ce qu'un jour t'aimerais jouer une Coupe du Monde ? J'en connais pas un qui vous dira « non, ça m'intéresse pas ». Ben pour nous, c'est exactement la même chose. On a les mêmes leviers que sont les émotions, tout simplement. On ne sera pas déstabilisé par un stade plein, une pression sportive, une pression médiatique. Ça fait partie de notre quotidien.
Le Bourguignon de 36 ans ne veut pas revivre le calvaire de Stéphane Lannoy il y a 8 ans en Afrique du Sud, le dernier représentant français en Coupe du Monde. Certains journaux étrangers avaient qualifié sa prestation de pire arbitrage de la compétition. Moscou, Jérôme Val, France Inter.
Et demain 17h, France, Pérou. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
C'est encore vous qui allez gagner le concours de pronostic du mondial.
J'espère, mais je n'y connais rien, il faut que je gagne.
Le cinéma sur les écrans cette semaine, un classique de la frousse qui ressort, Le silence des agneaux. Et Eva, ça vous a donné envie de parler de la peur au cinéma avec un film sorti, lui, la semaine dernière, mais toujours sur les écrans. Pororoca, Pas un jour ne passe, Constantin Popescu, réalisateur roumain. Au fond, il traite de ce qui nous fait le plus peur au monde, qu'un enfant disparaisse.
Exactement. Quand vous prenez Le Seigneur des Anneaux, c'est formidable, un psychopathe, cannibale, etc.
Qui mange tout le monde,
Mange tout le monde. Mais c'est loin de nous. On sait qu'on est au cinéma. C'est un jeu codé. C'est très bien fait, mais on est venu pour ça. Vous prenez Pororoca, c'est imprononçable, c'est le seul défaut du film. Un des seuls. Il joue sur une terreur primitive. Votre enfant est là à côté de vous, puis vous tournez la tête, il est plus là. Et puis il ne réapparaît pas. Donc, c'est quasiment un sous-genre de cinéma, on l'a vu dans des films, dans des séries. Mais il va le traiter de manière radicalement différente. Je dirais que c'est à la fois virtuose, existentiel et modeste, dans ce sens qu'il n'y a pas d'esbrouf et que c'est même aride. Donc un père emmène son garçon, sa fille, 5-7 ans, au parc. Voilà. Et il y a un plan qu'il faut montrer dans les écoles de cinéma, plan séquence, c'est-à-dire que la caméra n'a pas de coupe,
très
18
long.
Minutes, il est assis, puis on voit des gens sortir du champ. Puis à quel moment l'inquiétude naît, je ne sais pas. Puis on se dit, tiens, l'enfant est passé, je suis rassurée. Et puis on se dit, cette chose affreuse, mais auquel des deux il va arriver quelque chose. Et puis il téléphone avec son portable,
il dit,
mais raccroche, enfin, sois attentif. C'est formidable. Et après, pas d'esbrouf non plus. Après, on est dans l'après. Qu'est-ce que c'est qu'attendre ? Il n'y a pas de scénario dans ce truc-là. Attendre, espérer, désespérer, c'est l'après. Il y a une erreur majeure. C'est la fin du film.
Oui,
et tout d'un coup, j'ai envie de dire, et tout d'un coup, ce qui n'était pas artificiel, il va retomber dans une grosse ficelle de scénario qui n'est pas bonne, qui est en contradiction avec son film. J'ai deux conseils à vous donner. Ne regardez pas la fin, grosso modo, c'est 5
minutes.
Sortez
10 minutes avant.
Voilà. Et surveillez bien vos enfants, ne téléphonez pas.
Pour Oroca de Constantin Popescu,
mais
toujours
c'est doué,
sur les écrans.
C'est doué, quoi.
Conseil d'Eva Béton.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Enfin, il fait beau, Sébastien Léas.
Ciel bleu et soleil généreux s'imposent cet après-midi dans une ambiance qui se réchauffe très nettement avec des maximales grimpant entre 25 et 33 degrés. De nombreuses villes vont d'ailleurs voir le mercure dépasser les 30 degrés pour la première fois de l'année. Dans le sud-ouest, les températures atteignent même jusqu'à 34 degrés cet après-midi. Quelques nuages fleurissent tout de même sur le relief cet après-midi. Dans les Alpes, ces nuages peuvent aller jusqu'à donner une averse passagère, notamment sur le sud du massif avec même un risque d'orage. En revanche, près de la Manche, l'ambiance est un peu plus fraîche avec des températures variant entre 18 et 23 degrés. De plus, les grisailles matinales jouent parfois les troubles faites et tardent à se dissiper, donnant localement un ciel plus terne sur les plages.